Amplitude maximum.
T'écoutes cette radio.
Et oui, vous écoutez cette radio et on est de retour sur les ondes. Et maintenant, on va commencer la première partie de la chronique libre de Bastien. Alors, de quoi vas-tu nous parler ce soir? Là, je suis tout ouïe parce que là, je sais que tu as beaucoup de temps pour t'exprimer. Ouais. Tu vas nous donner plein d'informations. Vas-y.
Alors, si je te dis verju juvert.
Tu peux y aller un petit peu plus lentement?
Verju juvert.
Verju, c'est pas le nom d'un bled, d'un village, d'un cépage, quelque chose?
Pas du tout. Alors, on dit verju ou juvert pour dire c'est la même chose. Ça, c'est en 1690 qu'Antoine Furtier donne cette définition pardon, qui certifie l'existence du verlan. Déjà ça. Et puis du coup, le verlan, c'est de ça que je blablate aujourd'hui. Donc le verlan, argot français qui consiste en inversion de syllabes, c'est-à-dire un groupe de consonnes voyelles qui sont prononcées d'une seule façon. Donc moto, ordinateur. C'est compris? On est d'accord?
Oui.
Alors petite histoire du verlan. Ben, le verlan, il est devenu hype par la moitié du XXe siècle. Ça, c'est à l'oral. Parce qu'à l'écrit, aux surprises, ça daterait déjà du Moyen Âge.
Attends, ça s'écrit le verlan?
Le verlan, ouais.
Ça s'écrit. C'est un peu comme le québécois, finalement.
Okay. Justement, ça, c'est toi qui dis. Donc, on a peu de références de ça, mais on retrouve ce langage innovant déjà au XIIe siècle. Là, on peut dire bienvenue au roman de Tristan et Iseult. Et oui, on peut y découvrir que l'auteur, Sir Beryl, transforme le prénom Tristan en Tantris. Ça, c'est une petite preuve.
Ouh.
Une mini-preuve.
Je ne vais pas rebondir là-dessus.
Bon, il faut aller lire l'ouvrage. Hein. Faut aller lire l'ouvrage pour voir ça, parce que moi, je n'ai pas encore vérifié la chose. Il y a par la suite d'autres exemples qui apparaissent dans la littérature, mais je ne vais pas la lister, ce serait trop chiant et long. Par contre, je peux dire qu'il devient de plus en plus utilisé à partir du XVIe siècle. Là encore, je ne fais pas de liste, parce qu'il y a une flopée à mentionner. Donc sinon, on jump en 1867, où l'inversion des mots était une technique pour faire passer des messages télégraphiques. C'était donc d'abord utilisé comme langage secret, codé. Le verlan, il passe dans le langage des prisonniers et puis dans la classe populaire, chez les ouvriers et les artisans de Paris et son périph. Puis, à la Seconde Guerre mondiale, durant l'occupation, c'est oralement devenu assez courant. Vous devinez bien pourquoi, je suis sûr. Le codage des mots cryptiques.
The code.
Ensuite, on est en 1953. Auguste Le Breton, avec son roman du Rififi chez les hommes, il introduit le verlan dans son texte. Et avec ça, le verlan, il est attesté en 1968 par l'Organisation du Trésor de la langue française. Mais dans les années 70, il a explosé, le verlan. Comme j'ai dit, c'est d'origine parisienne et sa banlieue, et ça s'est popularisé. Ça, c'est parce que entre 1970 et 1980, le verlan, il est régulièrement parlé dans le périph' et devient l'élément d'identité de leurs habitants. La jeune génération, qui se sent marginalisée, mise de côté, elle va faire connaître les blousons noirs, les vêtements qui affichent une image de rébellion, et également l'usage du verlan. La population maghrébine immigrée, plus présente en banlieue, elle s'est accaparée le verlan avec l'arabisme en effaçant les voyelles. Les voyelles, on ne les retrouve pas tellement dans la langue arabe. Donc femme, c'est devenu meuf, flic, keuf, arabe, beurre, puis rebeu. Ça marque bel et bien la disparition des voyelles. Le début des années 90, ça marque l'incruste du verlan dans le langage. C'est la période où émerge le hip-hop et où NTM, IAM, Sage Poète de la Rue sont les leaders du retour du verlan. Surtout chez les nouvelles générations. Le développement du rap pousse cette mode dans la population et permet aux amateurs de rap de se démasquer par leurs différences culturelles et sociales et puis surtout d'apporter une nouvelle identité, une identité plus marginale. Avec ça, les textes rappés sont parfois des laboratoires du verlan, plus basés sur le rythme et le ton que sur les harmonies. Du coup, les allitérations, donc répétition de consonnes, exemple, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Vous avez la référence, et qui c'est?
Non, mais bravo, parce que j'aurais pas réussi.
Racine, ça dit quelque chose?
Oui.
Andromaque,
oui.
C'est là-dedans qu'on retrouve. Qu'on retrouve quoi, t'as dit? Comment? T'arrives pas à le dire?
Non.
Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes?
Non, je peux pas.
On fera des répétitions.
J'ai trois gros rats gras rôtis dans la graisse, mais c'est pas celui-là.
Donc, les allitérations, elles sont omniprésentes, ce qui pousse les rappeurs au néologisme. Le néologisme, c'est inventer et créer de nouveaux mots. Et aussi à populariser le verlan via ces mots qui ne sont pas trop connus. Début 2000, le verlan il devient plus ou moins compris et utilisé par toutes les couches sociales. On est donc loin, très loin de l'image initiale, mais s'il est associé à un accent, donc si le verlan se réfère à un accent spécifique, ben, c'est clairement incompréhensible aux non-initiés, Donc, ça remplit toujours la fonction d'un argot et exprime, comme à son origine, une identité métissée des jeunes de banlieue. Bon, la suite, je fais comme Renaud, je laisse béton. Sandra, tu nous mets du maestro ? Enfin, du Stromae ?
Si, on va.
Les effluves de rhum dans ta voix font tourner la tête. Tu me fais danser.
Et voilà. Ben, merci beaucoup. Et voilà, comme dit Stromae. Alors, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. J'avoue que c'est pas évident. J'en perds un peu mon latin. Donc, pour retrouver un petit peu nos esprits, je vous propose qu'on écoute Pink avec Hurts to be Human. Merci d'avoir choisi cette radio pour donner de l'amplitude à votre soirée.
Retrouve Amplitude en podcast
sur cetteradio.ch.